Peut-être qu'une solution aussi, et ça a été questionné par la Fédération canadienne des contribuables concernant, est-ce qu'on devrait pas faire le ménage un peu dans la fonction publique? Est-ce que les Québécois sont favorables à ce que on commence à faire du ménage puis que ça nous coûte moins cher au niveau des employés de l'État? Pour en parler, Nicolas Gagnon de la Fédération des contribuables du Canada, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Vous avez effectué un sondage auprès des Québécois. Puis c'est en fait un sondage léger qui a été publié hier qui révèle qu'une majorité de Québécois sont en faveur d'une réduction de l'État.
Ben, c'est exact. En fait, on voulait savoir c'était quoi l'opinion des Québécois par rapport aux compressions qui avaient déjà été annoncées il y a quelque temps par la présidente du Conseil du Trésor, Mme France-Hélène Duranceau, où est-ce qu'elle avait annoncé que pour l'année 2025-2026, donc d'ici l'exercice financier qui va se compléter le 31 mars prochain, on devrait avoir réduit la taille de l'État d'environ 2000 postes et d'un 3000 supplémentaires mars 2027. Donc, nous, on voulait savoir justement c'était quoi l'opinion des Québécois et s'ils étaient d'accord finalement à ce qu'on continue d'aller de l'avant dans cette direction. Et puis, ben, le sondage est quand même assez clair là-dessus. Là. 60% des Québécois interrogés nous disent qu'ils sont d'accord avec les coupures de 5000 postes dans la fonction publique. Il y a donc 25% qui sont contre et le reste sont des indécis. Mais quand on répartit les indécis, donc on prend en considération que ceux qui avaient une opinion à donner lors du sondage, ben, c'est 71% des Québécois qui sont d'accord avec les coupures dans la fonction publique. Donc, il y a eu quand même beaucoup de politiques, ou plutôt, de projets assez impopulaires là, sous la CAQ au courant des dernières années, voire même la dernière année. Mais pour ce qui est du ménage dans la fonction publique, ça, on peut dire que la plupart des Québécois sont pas mal d'accord avec les orientations de la CAQ présentement.
Mais l'affaire aussi, Nicolas Gagnon, c'est que les Québécois se rendent également compte que même si le gouvernement Legault a ajouté des fonctionnaires, quoi, c'est plus de 109 000 de plus, je pense, le service n'est pas plus là pour le citoyen qui paye. Là.
Ben c'est exact. C'est peut-être une des raisons pour laquelle les gens sont d'accord avec le ménage à faire. C'est qu'ils ont réalisé que malgré qu'on ait gonflé la taille de l'État, qu'on ait autant engagé, mais qu'on ait aussi créé des structures supplémentaires, on n'a pas amélioré la qualité des soins ou l'accessibilité des services dans le système de santé, par exemple, ou dans le système scolaire. Donc, c'est des choses que les gens constatent parce que, effectivement, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, entre le moment où la CAQ est arrivée au pouvoir, plutôt en 2018 et présentement, on a ajouté pas loin de 109 000 nouveaux employés dans l'ensemble de la fonction publique. Ça inclut donc pas loin de 12 000 dans les ministères directement et le reste, à peu près 97 000 répartis dans l'ensemble du secteur parapublic. Ça comprend la santé, l'éducation, sécurité publique et autres. Sauf qu'il faut aussi considérer que dans ces effectifs-là, il y a un ménage qui va être à faire. Il n'y a pas loin de 1000 postes qui vont être coupés directement là-dedans, c'est ce que Mme Duranceau disait. Mais il y a aussi pas loin de 50% des nouveaux postes qui ont été créés dans le parapublic, qui sont essentiellement des postes d'employés de bureau, de techniciens ou même de cadres. Donc, il y a un ménage à faire également là-dedans. Pour l'instant, le gouvernement s'est gardé un peu de réserve là-dessus. Il se concentre surtout dans les ministères où il y a pas loin de 80 000 fonctionnaires là, versus 68 000 quand la CAQ est arrivée au pouvoir. Donc, tout ça, on va voir comment ça va se dérouler. Bien sûr, on va attendre le budget qui va être publié en mars prochain pour évaluer si le travail a bel et bien été fait. Puis la raison pour laquelle on martèle que ça doit être fait effectivement, c'est que ben, le gouvernement de la CAQ a perdu le contrôle sur la fonction publique au cours des dernières années et inévitablement, on a perdu le contrôle sur les finances publiques. Donc, pour équilibrer le budget, il va falloir passer par des coupures réelles dans la fonction publique. Et bien, il semblerait que les Québécois sont d'accord avec cette approche-là.
Mais c'est un peu particulier, Nicolas, de voir que le premier ministre François Legault s'était présenté comme ça à la première élection pour devenir PM avec une publication qui s'appelait Le Projet Saint-Laurent, avec le goût de dégraisser comme ça la fonction publique. Et la résultante, c'est tout à fait le contraire. C'était peut-être même la première fois qu'un premier ministre se présentait avec l'idée de dégraisser comme ça l'État, mais le contraire est arrivé. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un PM se présente comme ça aux urnes, ou plutôt devant les Québécois, et fait totalement le contraire de ce qu'il avait dit?
C'est une très bonne question. Je pense que c'est quasiment une question qu'on devrait poser aux principaux intéressés directement, parce que c'est genre de 180 degrés qu'on voit pas souvent en politique, du moins qu'on n'a pas vu souvent, du moins auparavant, comme vous l'avez mentionné. C'était pas arrivé souvent qu'on avait eu un premier ministre qui s'engageait à faire le ménage dans la fonction publique pour ne pas le faire. Les fameux 5000 postes qui sont en train de couper présentement, ça faisait partie des promesses déjà en 2018. Mm-hmm. Et quand on se fait aux élections de 2014 et de 2012, ben la CAQ promettait de couper encore plus. On promet juste jusqu'à 20 000 postes de coupeurs en 2014. Donc, comme quoi est-ce qu'on a fini par quand même revenir à des objectifs un peu plus réalistes à l'époque pour finalement les abandonner complètement. Ils vont utiliser beaucoup... en fait, ça, je me base vraiment sur l'ancienne présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, qui à plusieurs reprises a cité un paquet d'arguments pour justifier les embauches. On a parlé entre autres de la pandémie. Oui. La pandémie a eu le dos large pas mal.
Okay, oui.
Il y a aussi eu toute la question de l'immigration au cours des dernières années. Veux pas, ça a amené des besoins supplémentaires en francisation dans les milieux scolaires également. Donc, ils ont justifié les embauches là-dedans, oui, ainsi que dans la sécurité publique. Donc, ils n'ont pas à en prendre puis à en laisser. Mais quand on regarde, par exemple, les nouvelles structures qui ont été créées, qui n'apportent absolument rien, comme pour ne citer ici que l'Agence Santé Québec, c'est plus de fonctionnaires.
C'est un panier de plus, c'est ça.
C'est plus de paperasse.
L'Agence Transport Québec.
Québec, même affaire.
Exact. Donc, on crée des agences supplémentaires, mais finalement, est-ce qu'on en a plus pour notre argent en tant que contribuable? Ben, malheureusement, la question est vite répondue. Puis quand on regarde, en fait, l'ensemble de l'explosion des coûts de la fonction publique, parce qu'on s'intéresse surtout au nombre, généralement, mais rarement à la facture, cette facture-là, elle a augmenté d'environ 43% depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir. Là, on est passé d'environ 45 milliards de dollars par année à 64 milliards de dollars par année en rémunération.
C'est presque 43% d'augmentation. Puis on compare à ça, on dit OK, ben peut-être que la population a augmenté puis qu'on a besoin de plus de monde pour essayer d'assurer le service, mais on se rend compte que la population du Québec a augmenté d'environ juste 9% versus 43% d'augmentation des coûts de la fonction publique.
Exact. Ben, la taille de la fonction publique a augmenté elle-même, oui, juste au niveau des effectifs de pas loin de 40%. Là, on ajoute le fait que la facture elle-même a augmenté de pas loin de 40%, oui, également. Puis ça, c'est deux fois plus que l'inflation observée sur cette même période. Donc, on a vraiment une croissance de la fonction publique qui est deux fois plus vite que la croissance de la démographie. Puis on a aussi un coût de la fonction publique qui est deux fois plus élevé, qui croît deux fois plus rapidement que l'inflation. Donc, il y a un très gros problème à ça. Puis là, il y a souvent des gens qui nous interpellent, surtout, je dirais, des gens qui sont proches des centrales syndicales qui nous disent si vous voulez qu'on fasse des coupures, là, vous voulez qu'on coupe dans les services. Et moi, je suis allé chercher quelques chiffres auparavant pour. Ils vont toujours dire ça, peu importe où est-ce qu'on fait des coupures, là. Donc, il faut s'y attendre. Mais je suis allé chercher des chiffres pour comparer dans 2018 et 2024 parce qu'il y a des ministères là-dedans que ça fait aucun sens, là. Je ne sais pas si vous le saviez, mais au ministère de l'Environnement, en 2018, il y avait 1727 fonctionnaires. Présentement, du moins dans les derniers calculs du Conseil du Trésor pour le rapport de 2024, ils sont rendus 4000. On parle de service à la population, je suis pas sûr qu'il y a bien du monde qui ont appelé au ministère de l'Environnement récemment. Puis c'est une augmentation de 130% sur 6 ans, là. Donc, éventuellement, c'est des histoires comme ça. Puis il n'y a pas juste le nombre de fonctionnaires, il y a aussi les masses salariales. J'ai récemment découvert que les fonctionnaires qui font plus de 100 000 $ donc des salaires dans les 6 chiffres au ministère des Ressources naturelles, par exemple, ça a augmenté de 357% depuis 2018. Et pourtant, c'est pas comme si on développait beaucoup plus de ressources naturelles qu'au courant des dernières années.
Mais non, c'est ça. Puis la question qu'on se pose, tu sais, on le dit, là, il y a plus de monde, il n'y a pas tant plus de services. Ça démontre que la machine, selon moi, elle est immense, puis on n'est pas capable d'avoir un contrôle sur ce qui se passe dans la machine de la fonction publique. Puis l'autre question, c'est est-ce que c'est possible de couper des postes ou même de faire le ménage? Parce que dès qu'on fait une petite annonce, les syndicats sortent et font peur à la population en disant « Ah, il n'y aura plus de service, allez voir. » On n'en a déjà pas.
Effectivement, les syndicats, de toute manière, ils vont sortir pour toutes les raisons. D'ailleurs, peu importe qui va se faire élire pour succéder à François Legault ou sinon qui va être élu au prochain suffrage, il va y avoir des négociations pour des conventions collectives en 2027-2028. Donc, peu importe qui se fait élire, il va y avoir d'autres... ils vont devoir se battre bec et ongles pour protéger à la fois les finances publiques des ambitions des syndicats qui vont ramener exactement les mêmes argumentaires qu'on a vus au cours des dernières négociations en 2023. Donc, faut s'y attendre. Puis nous, c'est la raison pour laquelle on sort ce sondage-là, essentiellement, parce que là, il y a une course à la chefferie pour succéder à François Legault. Donc, on va espérer que Bernard Drainville puis Christine Fréchette soient encore orientés sur les mêmes objectifs qui étaient fixés auparavant, parce que, on le dit franchement, les Québécois le veulent. Donc, on va espérer qu'ils livrent. Et sinon, c'est une façon aussi de tendre un peu, donner de l'opportunité à Paul Saint-Plante-Amondon, puis aux aspirants au leadership du PLQ. Je pense qu'il y a juste Chambillard et Mario Roy. Là, ben, je ne sais pas si le deuxième s'est confirmé, mais il y a quand même ces deux-là qui devraient quand même s'exprimer, considérant qu'ils représentent à la fois le parti qui est le mieux positionné pour l'instant dans les sondages pour devenir le prochain gouvernement, puis l'autre ben, qui est quand même l'opposition officielle. Donc, on n'a pas eu beaucoup de commentaires de leur part. Donc, on va espérer là, que le sondage les fasse réagir et que sinon, ben, que le gouvernement au moins continue à faire cet effort-là.
Mais en ce moment, le parti qui est en tête dans les sondages, au moment où on se parle pour la prochaine élection, c'est le Parti québécois. Pas sûr. En plus, le Parti québécois qui a invité Magali Picard de la FTQ à son congrès, pas sûr qu'on va couper dans la fonction publique. Là.
Non, exactement. Entendons-nous, là, c'est la proximité entre le Parti québécois et les syndicats ne date pas d'hier, donc elle ne surprend pas personne. Ceci étant dit, j'ai quand même entendu à plusieurs reprises le Parti québécois eux-mêmes dénoncer dans les dernières années la croissance de la bureaucratie au Québec par rapport à l'augmentation des effectifs qui sont directement en première ligne, comme les infirmières ou les professeurs. Puis c'est vrai qu'il y a une différence là, entre les deux. Quand on compare la croissance des effectifs d'employés de bureau dans le secteur parapublic versus les infirmières et les professeurs et les intervenants de première ligne, il y a vraiment une disparité importante. Donc, ils s'intéressent aux bons problèmes. Maintenant, est-ce qu'ils vont amener des solutions à ces problèmes-là? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est sûr qu'on va voir comment est-ce que se positionne le Parti québécois. Je crois avoir aussi entendu Mme Dubail-Picard s'exprimer il n'y a pas longtemps en disant que de son côté, là, qu'il allait rester non-partisan, il allait pas approcher de partis spécifiquement, mais qu'il allait quand même mettre de l'avant leur feuille de route. Donc, on va voir ce qu'il en est, mais ce qu'on va espérer, c'est que les politiciens écoutent les contribuables et non les centrales syndicales.
Mais les syndicats, souvent, vont essayer de faire peur. Tu sais, je le disais hier, puis il y a les médias québécois aussi qui embarquent dans ce bandwagon-là. Hier est sortie une nouvelle sur Radio-Canada, entre autres concernant des coupures de postes. On dit que 10 000 nouveaux fonctionnaires touchés par les compressions annoncées par les syndicats au niveau du fédéral. Tu sais, on veut essayer de faire le ménage aussi au niveau du fédéral. Puis là, encore une fois, il y a trois syndicats qui lèvent la main en disant « Ouais, là, c'est peut-être pas la bonne affaire. »
Ouais, ben, puis de toute manière, peu importe ce qu'on va faire, ils vont répéter le même tour encore une fois, mais faut le rappeler à ce syndicat-là que ce que j'ai expliqué par rapport à la croissance de la fonction publique au Québec, puis le coût de la fonction publique, puis son explosion globalement, ben, il y a vraiment un reflet entre le Québec et Ottawa là-dessus. Donc, c'est drôle parce qu'au Québec, on a toujours tendance à vouloir faire les affaires différentes d'Ottawa sur à peu près tous les dossiers, sauf spécifiquement là-dessus, on a vraiment fait pareil. Ouais. Les effectifs au niveau fédéral ont augmenté quand même de 99 000 fonctionnaires au cours des dernières années. Je veux dire, quand on regarde l'ensemble, là, on peut regarder par exemple Revenu Canada. On a ajouté 13 000 nouveaux postes chez Revenu Canada. On a doublé les budgets. Il n'y a absolument rien qui s'est amélioré. On est rendu avec un deuxième
mais
rapport du directeur
général. Le sent pas là, qu'il y a eu des embauches comme ça de réaliser. Puis,
pas du tout.
Surtout au fédéral, on se rappelle des problèmes de passeport, on se rappelle une multitude de problèmes comme ça de l'ère Trudeau. On n'a pas l'impression qu'engager est souvent une solution pour le peuple, pour les Canadiens et les Canadiennes.
Ben effectivement, on s'est concentré davantage à se dire, ben écoutez, il y a des gens qui se plaignent de la qualité des services. C'est clairement parce qu'on manque de personnel et qu'on manque d'argent, donc on va régler le problème comment? Ben, on va garrocher de l'argent sur le problème. C'est exactement ce qu'a fait Justin Trudeau pendant l'entièreté de son règne. Donc, on a gonflé les effectifs partout, gonflé les structures, gonflé les budgets, mais il n'y a rien qui s'est amélioré parce que les problèmes sont généralement structurels. Comme Revenu Canada, par exemple, on a appris récemment que malgré le fait qu'on a embauché 13 000 fonctionnaires de plus, ben, vous avez juste 17 % de chance, lorsque vous appelez chez Revenu Canada, d'avoir la bonne information. C'est pile ou face. Donc, il y a vraiment un problème au niveau de la clarté des informations, au niveau de la formation des employés, au niveau même du code fiscal qui pourrait être simplifié. Puis ça, c'est juste Revenu Canada. On pourrait s'attaquer à n'importe quelle structure, mais à la fin, les syndicats devraient peut-être prendre un peu un break là-dessus. Il y a un ménage qui est nécessaire pour améliorer les services, puis ça passe aussi avec une réduction de certains effectifs.
Oui, puis de faire, tu sais, de faire peut-être un constat de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas là, avec les gens qu'on a. En terminant, est-ce que le télétravail peut avoir un impact justement sur les services qui sont donnés aux citoyens? Là, le gouvernement du Québec rappelle ses fonctionnaires 3 jours par semaine. Ça peut-tu peut-être aider à améliorer le service aux citoyens qui payent, là?
Ben, ça devrait être le cas parce que pour le télétravail, on s'entend que c'est pas nécessairement toujours une garantie de performance. Je connais beaucoup de personnes qui sont en télétravail, qui sont très performants versus des gens qui sont au travail, au bureau, puis qui ne le sont pas. Donc, c'est très variable. Ce que j'espère, par exemple, c'est que le gouvernement prenne un pas de recul pour être en mesure de juste réorganiser ses effectifs, revoir leur fonctionnement. Puis ça fait partie un peu de l'engagement de Mme Durenceau, là, de pas juste faire de la réduction par attrition des effectifs, mais aussi de la réorganisation. Oui, donc oui, il y a l'optimisation qui est à faire. Puis une fois qu'on aura optimisé, là, on pourra renvoyer les gens à leur domicile. Mais là, c'est parce qu'on maintient pas mal le même genre de régime que celui durant la pandémie, alors qu'il va falloir qu'on s'ajuste. Puis comme vous l'avez mentionné avant que j'arrive en Londres tantôt, ben on l'a perçu dans plusieurs municipalités au Québec, notamment ben, à Québec, à Montréal puis à Ottawa, où est-ce qu'on a beaucoup de fonctionnaires, que ben le fait qu'il y ait beaucoup moins d'employés au bureau, ben ça a un impact sur la vie des quartiers, sur le chiffre d'affaires de certains commerçants. Donc, il y a aussi ça à prendre en considération. Donc, je pense que la première des choses, c'est oui, on ramène les gens au bureau, puis quand on voit qu'il y a une amélioration du rendement, bien là, on pourra passer à la prochaine étape de donner le privilège à certains de travailler de la maison.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, c'est toujours un plaisir. On va continuer de mettre de la pression, puis on se parle bientôt. Merci.
Salut.
Avec grand plaisir. À bientôt.
Bye-bye. Parce que, tu sais, des fois, tu jases avec des gens qui travaillent dans la fonction publique, qui sont haut placés ou pas, là, mais tu parles à ces gens-là, puis qui te disent, ouais, ben les lobbies syndicales et la machine en tant que telle, amène très, très, très large.
J'entendais un délégué syndical hier à la télévision dire « Il y a plein de gens qui songent à quitter la fonction publique. » Il parlait de 40% des gens, des fonctionnaires qui songent à quitter la fonction publique parce que là, il y a un retour progressif ou un retour au bureau qui leur convient pas. Mais ils faisaient un vox pop après, à la sortie des fonctionnaires qui allaient prendre soit leur autobus ou leur voiture. Puis c'était unanime. Il n'y a personne qui veut laisser une job avec autant de privilèges et d'avantages pour en faire quelque chose d'assez banal, c'est-à-dire un retour au bureau comme ça, 3 jours par semaine. Est-ce que ça vaudrait une démission? Les syndicats de fonctionnaires militent en disant « Hey, il y a jusqu'à 40% des fonctionnaires qui vont quitter ».
Ils le feront pas.
Là, c'est une enflure.
Ben oui, absolument. Puis, tu sais, quand. C'est bien beau de dire, ben moi, si je retourne au bureau 3-4 jours par semaine, je vais changer de gars à un moment donné. Ouais, mais à partir du moment où tu as à mettre et à écrire et à signer ta lettre de démission, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui doivent réfléchir.
Pour un principe là, auquel tu tiens, peut-être pas tant que ça.
Oui, puis l'autre affaire, c'est ce qu'on me disait, c'est que, mettons qu'un certain ministre prend une décision politique.
Oui.
Généralement, il y a certains ministères où le politicien peut prendre n'importe quelle décision qu'il veut. Ça bloque des fois au deuxième palier, ce qu'on appelle les sous-ministres, là. Il y en a qui amènent large en tabarouette.
Ça arrivera pas, M. le ministre. C'est pas de cette façon-là qu'on fait.
Non, c'est pas même ça va marcher.
Ils ont le bras long, les sous-ministres.
Parlant de politique, les hauts fonctionnaires. Mark Carney est revenu de Davos.
Oui.
On parlait à Donald Trump. Se serait rétracté. Ah non, ce matin, il ne se serait pas rétracté. C'est pas lui qui l'a appelé, c'est Donald Trump. Il y a toute l'histoire de la course à la chefferie de la CAQ, le Parti québécois. Bref, au retour, on en parle avec notre chroniqueur politique, Rodolphe Osny.
Couture.
Restez là, on revient dans un instant.
Dans le Mid, Radio X.